CQFD.
Et nous, on veut tout savoir, ou presque, sur la douleur à laquelle nous consacrons l'intégralité de notre édition ce jeudi, du signal d'alarme à la douleur chronique, la prise en charge, les recherches, avec trois invités, Isabelle de Coster, Yolande Cotelat et Davide Zoccatelli. Alors Isabelle de Coster, pour mesurer la douleur, en fait, puisqu'on a vu qu'elle était individuelle, vous utilisez des petites règles graduées, j'en ai une devant moi. Alors du côté du patient, on va dire, il y a un petit trait, hein, tout à gauche c'est 0, pas de douleur, et tout à droite, c'est 10, la pire douleur imaginable. Alors le patient fait coulisser la languette. Et de l'autre côté, de votre côté en fait, hein, celui que vous voyez, que moi je vois pas, qu'est-ce qu'il y a?
Alors, je vais vous faire l'exercice.
Voilà.
Quand il vous a pincé, où est-ce que vous mettriez le curseur?
Ah, moi, je mets le curseur, en gros, je le mettrais ici, quand même.
Voilà.
C'est quoi, ça? 2, 3/10? 3/10.
Alors, non, vous êtes à 2,1.
Ah, là,
parce que de l'autre côté, moi, j'ai une réglette, graduée sur 10 cm. Et puis, je peux lire que vous avez positionné le curseur sur 2,1.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est l'intensité de la douleur que vous donnez.
Que j'ai ressenti.
Voilà, que vous avez ressenti. Et puis vous l'avez ressenti en fonction de quand vous n'avez pas de douleur du tout, vous connaissez cette étape.
Hein.
Et puis 10, c'est la douleur la pire que vous puissiez imaginer. On dit souvent pour les femmes la douleur de l'accouchement, pour les hommes les coliques néphrétiques quand on a des calculs rénaux.
Mm-hmm.
Ça très souvent c'est scoré à 10.
Ah, d'accord.
Pour que la personne puisse avoir une référence.
Mm-hmm. Oui, on le disait, la douleur elle est très individuelle. La perception aussi, elle peut changer, parce que la pire douleur, si on n'a pas vécu ces épisodes que vous évoquez, elle peut évoluer au cours de la vie, finalement. Ce que aujourd'hui je vais considérer comme ma pire douleur, elle ne sera pas la même demain.
C'est tout à fait possible, hein, parce que ça fait partie la douleur de votre expérience de vie. Hein. Et puis, on a des phénomènes très complexes qui nous permettent de moduler cette douleur. Hein. Et bon, malheureusement, dans certaines situations, de l'augmenter, mais aussi de la diminuer. Hein. Ce qui contribue, par exemple, aux effets qui diminuent la douleur, des effets placebo. Hein.
Alors, on le disait, à disposition pour mesurer cette douleur, des questionnaires, notamment en 6 langues, ou d'autres types de petites règles qu'on avait. Alors sur celle-ci, on voit les visages, hein, plus ou moins tristes, et puis c'est un peu le même principe à l'arrière, finalement.
Tout à fait. Alors à l'arrière, c'est le même principe. Comme les visages, il y a une moins grande précision, on ne peut pas mesurer ça au millimètre, hein, comme le 2,1. Mm-hmm. Enfin, on va se retrouver dans des catégories 0, 2, 4, 6, 8, 10, en fonction des 5 visages qui sont proposés sur la réglette. Et ça nous permet de mesurer ça, par exemple, chez des enfants qui reconnaissent un faciès qui pourra être différent si on est content ou si on a mal.
Voilà, et dans les questionnaires, on disait encore ici, par exemple, on voit un homme de face, de dos, et à nous indiquer dans quelle zone on a mal, etc. Il y a plein de questions à poser.
Donc, si je comprends bien, en fait, vous avez un score à la fin, Davide Zoccatelli. Qu'est-ce que vous faites concrètement de ce score, notamment s'il est très élevé? Par exemple, si vous êtes à 10, est-ce que ça veut dire que automatiquement vous avez des procédures, vous devez donner un certain type de médicament aux patients?
Oui, disons, la douleur est considérée actuellement un peu comme le cinquième signe vital. Hein. Donc, il y a la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la température, la respiration. Et puis, actuellement, la douleur est considérée dans un hôpital comme un signe vital qu'il faut calculer, qu'il faut objectiver et qu'il faut traiter. Et puis c'est clair qu'un patient qui score à 10, c'est une urgence de prise en charge, disons.
Donc ça veut dire morphine tout de suite?
C'est-à-dire on a des schémas, on a des protocoles, on commence par des médicaments qui ne sont pas forcément tout de suite extrêmement puissants comme la morphine. Parfois même une douleur à 10 peut être gérée avec des médicaments moins puissants et moins forts comme banal, paracétamol.
Voilà. On a tous compris.
mais c'est clair que une fois qu'un patient a score à 10, il y a un suivi qui est rapproché. Toutes les 5 minutes, le personnel soignant doit s'inquiéter de comment le patient se sent et viser une douleur qui devienne acceptable. Hein. Pour quelqu'un qui score à 10, la douleur est quelque chose d'inacceptable.
Acceptable, ça veut dire combien sur l'échelle?
Alors, il faut déjà que le patient dise que c'est acceptable pour lui.
Mm-hmm.
Et puis, on dit en 3 et 4. Hein, disons, là, c'est un essai, c'est réglette qui quantifie la douleur. C'est une tentative très utile et très pratique d'objectiver quelque chose qui reste subjectif. Donc, c'est un peu une quelque chose qui sert de guide à la prise en charge.
Yolande Cotla, vous êtes beaucoup en contact avec les patients. Vous nous l'avez dit en introduction, vous les croyez toujours, enfin c'est une règle de croire le patient. Mais quand il dit 10, vous n'avez pas des fois l'impression qu'il exagère? Ou au contraire, il y a des gens qui se plaignent pas du tout, puis qui vont dire 0 systématiquement, alors que peut-être ils ont mal. Comment vous arrivez à déceler ça?
Alors je pense que ça rejoint une notion importante qui est l'information aux patients, l'information aux professionnels et même plutôt la formation des professionnels. Et je crois qu'on a là un partenariat qui est très très important avec le patient comme professionnel pour pouvoir savoir de quoi il s'agit. En fait, finalement, quand ce patient me dit 10 et que peut-être j'ai l'impression que c'est un peu exagéré, comme vous le disiez, eh bien, je dois vraiment aller plus loin, essayer de décortiquer avec le patient. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec ce 10? Inversement, un patient qui me dit non, j'ai pas mal, alors que j'ai l'impression qu'il a les traits tirés, qu'il a l'air vraiment souffrant, enfin, que mon impression de professionnel va me dire qu'il a mal. Là aussi, je dois creuser pour comprendre pourquoi ce patient choisit de pas
de
me
dire
qu'il a pas mal et l'informer des risques pour sa santé de cette douleur qui finalement continue. Parce que ça, c'est un message très, très important. La douleur a un impact sur la santé générale de la personne. La douleur est néfaste pour la santé à bien des égards dans notre corps. Et c'est vraiment le message capital. Tant pour les patients, il faut qu'ils comprennent que c'est important de nous signaler leur douleur parce qu'on va pouvoir agir. Et même pour les professionnels, finalement, il faut qu'ils ne banalisent pas la douleur des patients parce que cette douleur entraîne toujours des conséquences physiques, mais aussi psychologiques sur la santé des patients.
Mais Davide Zoccatelli, justement, cette espèce de mesure de dire, voilà, je suis à 7 ou 6 ou 5, n'est pas toujours possible si un patient est en pleine anesthésie ou alors même un nouveau-né, à la limite. On ne peut pas toujours avoir ce score. Donc, comment est-ce que vous évaluez la douleur s'il n'y a pas le score?
Un nouveau-né, une personne âgée, quelqu'un qui est sous anesthésie. Alors là, il y a toutes des moyens qui peuvent être mis sous forme de formulaire ou bien de aussi l'expérience clinique. Il y a des signes qui peuvent traduire une douleur.
Oui, des traits sur le visage, vous nous disiez, Yolande Cotla.
Oui, en fait, il y a différentes échelles pour les enfants. Pour les enfants, il y a, je crois, en tout dans le monde, une quarantaine d'échelles différentes qui existent, selon que ce soit un prématuré, un petit enfant de moins d'un an, un enfant de 1 an à 4 ans. Donc, voilà, au CHUV, on a retenu, je pense, 4 échelles différentes et les équipes savent laquelle elles doivent utiliser pour tel type d'enfant. Et pareillement, pour les personnes démentes, avec des troubles de la communication, on aura aussi des outils particuliers où, comme dans tous les scores, on va observer le patient.
Et c'est vrai que c'est des échelles aussi qui nécessitent quand même une bonne connaissance clinique. Si on a une échelle du nouveau-né, c'est clair que l'infirmière qui a l'habitude de travailler avec le nouveau-né pourra l'utiliser, alors qu'elle n'est pas si facilement et intuitivement utilisable, comme par exemple cette réglette qui est tout de suite accessible à tout le monde.
Alors, on a vu que la douleur était individuelle, on a vu qu'elle servait parfois de signal d'alarme, de signe qu'il y a quelque chose qui cloche, en fait, chez un patient. Mais cette douleur, elle peut durer, elle peut devenir chronique. Alors, Isabelle de Coster, à partir de quand est-ce qu'on considère qu'une douleur est chronique?
C'est totalement arbitraire, hein, ce qui a été décidé par les associations de recherche sur la douleur, c'est 3 mois. À partir du moment où une douleur persiste au-delà de 3 mois, on parle d'une douleur chronique.
Et alors, ça devient à ce moment-là, ça devient une vraie maladie qu'il faut traiter en soi, cette douleur, ou il y a toujours quelque chose qui se cache derrière?
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur cette notion de vraie maladie, parce que avec le temps, mais même immédiatement après la stimulation douloureuse, on vous a pincé, vous avez ressenti pendant quelques minutes quelque chose encore.
Oui, maintenant, plus du tout.
Heureusement.
Voilà. Bon, non, vous n'allez pas recommencer, Bastien, ça va aller. Ou alors sur l'autre bras.
Alors, on a tout de suite des mécanismes qui se mettent en place, des mécanismes qui se mettent en place qui peuvent être encore protecteurs. Si vous avez pincé trop fort et puis que la peau était ouverte, eh ben qu'est-ce qui se passe? Vous voulez éviter de retoucher cette zone, et puis en même temps, pour que le tissu puisse se réparer, il faut que ça soit immobilisé. Donc la douleur est là pour prévenir des mouvements, des agressions supplémentaires sur une zone qui a une lésion.
Pour m'empêcher de bouger, par exemple.
Voilà, pour vous empêcher de bouger, vous cassez un bras. bras, ben ce bras, on va pas le bouger. Et ça, c'est encore protecteur. Mais à partir d'un moment, on dit que ça devient maladaptatif. C'est une mauvaise adaptation, finalement, du système nerveux à la lésion qu'il y a eu au départ. Et c'est des mécanismes qui sont ancrés dans le système nerveux. C'est une sorte d'empreinte comme ça qui s'installe et qui est très difficile à traiter, d'une part. Et ce sont des mécanismes qui sont très complexes, qu'on découvre au fur et à mesure des années de la recherche et qui vont donner cette persistance, cette hypersensibilité du système nerveux face à cette sensation et cette émotion douloureuse.
Ouais. Le terme douleur chronique, on l'entend beaucoup dans les discussions de tous les jours comme ça. Est-ce qu'on sait quel est le pourcentage de la population qui souffre de douleur chronique?
1 personne sur 5.
À ce point-là?
Oui, tout à fait.
Ah, c'est énorme.
Et on retrouve même dans une population jeune, vous prenez une population de 20 ans, donc là c'est des études européennes, y compris la Suisse, vous avez jusqu'à 15% de jeunes qui ont des douleurs chroniques. Et puis on est un petit peu plus élevé chez des personnes âgées, à partir de 70, 80, 90 ans, on est autour des 25-28%.
Il y a un type de douleur qui est plus représenté ou un endroit du corps qui est plus touché?
Alors la maladie de l'homme qui marche sur deux pattes, ça, c'est les douleurs du dos.
Eh oui.
Alors schématiquement, peut-être on peut définir trois formes de douleurs chroniques. Si je vous les mets, vous pouvez nous expliquer peut-être la différence. Douleur inflammatoire, douleur neuropathique et douleur dysfonctionnelle. Si je vous prends ces trois catégories, qu'est-ce qu'il y a comme différence?
Oui, alors tout à fait. C'est ces trois catégories qu'on utilise, qui ont des répercussions sur les traitements qu'on va utiliser. Mmh. Alors, inflammatoire, c'est tout ce qui est en lien avec un phénomène inflammatoire. Alors, par exemple, la douleur post-opératoire aiguë est une douleur inflammatoire, puisqu'il y a un processus de réparation tissulaire.
L'arthrose est une douleur inflammatoire.
Quand vous avez des mal au dos, par exemple, la douleur, il y a une contribution inflammatoire à cette douleur. Et puis ensuite, on va sur des douleurs neuropathiques. Alors, c'est lorsqu'il y a une lésion ou une dysfonction du système nerveux. On peut tout à fait imaginer un accident avec un nerf qui peut être coupé lors de l'accident, par exemple. Et là, on a des douleurs neuropathiques qui se développent. Pareil, ce qui est aussi des fois difficile à percevoir, c'est qu'on a des douleurs qui sont dites mixtes, parce qu'on va avoir des douleurs inflammatoires et des douleurs neuropathiques. Et la douleur, par exemple, de l'hernie discale, qui peut être extrêmement handicapante, elle va produire et de l'inflammation et, lorsque ça comprime la racine nerveuse, une douleur de type neuropathique.
Justement, là, je voulais vous dire, quand j'ai souffert d'une hernie discale il y a longtemps, j'ai remis mon échelle beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut que tout à l'heure quand Bastien m'a pincé. Il y a quelque chose d'intéressant que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'au bout d'un moment, la douleur modifie en fait la physiologie du certain réseau nerveux, le câblage dans notre corps, ça peut aller jusque-là?
Oui, tout à fait. Alors, on a des modifications qui sont tant moléculaires, des nouvelles molécules qui sont fabriquées par les neurones, qu'anatomiques, où certaines fibres nerveuses dégénèrent, et on peut avoir même de la mort cellulaire à l'intérieur du système nerveux, par exemple la moelle épinière sur des neurones inhibiteurs.
Et cette modification, elle intervient rapidement ou bien il faut du long terme?
C'est difficile de vous donner en termes de temps chez l'humain, parce que beaucoup des études sont faites dans des modèles expérimentaux chez l'animal. Mais par exemple, chez la souris, on sait qu'après une semaine, on a des morts cellulaires au niveau de la moelle épinière.
Alors, et c'est peut-être quand on est à ce stade-là, la douleur, qu'on se décide enfin peut-être à consulter un spécialiste. David Ezzocatelli, les gens viennent d'eux-mêmes dans votre centre, ou alors ils sont voyés par leur médecin qui leur dit « là maintenant, ça fait trop longtemps, vous avez mal, faut aller voir ».
Alors, c'est souvent le médecin traitant qui adresse les patients à un centre de la douleur pour un avis de traitement de la douleur. Parfois c'est le patient lui-même qui demande, mais c'est souvent le médecin traitant qui, confronté à une difficulté de gérer une situation qui finalement est chronique, où finalement les moyens thérapeutiques ne comprennent pas la baguette magique qui enlève les douleurs, il demande un avis et dans un centre spécialisé qui peut offrir une palette de différentes
prises en charge.
Alors justement, par rapport à la prise en charge, si la situation n'est pas trop compliquée, on peut imaginer que quand il arrive, ben, on lui injecte des antalgiques à l'endroit où ça fait mal, on appelle ça des infiltrations si je ne me trompe pas. Mais si la situation est un petit peu plus complexe, est-ce que vous allez vraiment vouloir réduire la douleur à zéro? Vous allez vous fixer des objectifs? Comment ça se passe?
Justement, la douleur, la réduire à zéro, c'est la situation idéale qui n'existe pas. Actuellement, comme on l'a dit encore tout au début de l'émission, la recherche, elle fait beaucoup d'efforts, elle comprend de mieux en mieux les mécanismes, elle n'a pas encore trouvé le médicament ou la molécule qui arrive à un endroit précis et enlève complètement la douleur. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, que ce soit des médicaments, des traitements adjuvants, des infiltrations, voire parfois de la chirurgie, ça sera toujours l'objectif, celui d'obtenir une douleur qui devienne acceptable. Et puis on discute avec le patient, on essaie d'établir quel est cet objectif qu'on vise. Clairement, là, on parle de la douleur chronique qui est devenue une maladie et pas de la douleur aiguë. Hein. Donc, c'est deux entités clairement distinctes. Une physiologique, normale, protectrice, et l'autre plutôt maladie. Hein.
Alors justement, cette douleur, bon, on l'a répété, elle est très individuelle, hein, chacun la vit à sa manière. Elle peut aussi varier selon des origines, la culture, le vécu. Parfois, la douleur va jusqu'à empêcher de travailler. À ce moment-là, est-ce que ça peut avoir un impact psychologique? La personne tombe en déchéance?
Oui, bien sûr. La douleur peut avoir...
Vous observez, vous avez ce genre de patient?
On observe clairement. La douleur chronique est une maladie qui a des implications socio-professionnelles qui peuvent être vraiment, vraiment significatives et importantes. D'où l'importance aussi de détecter ce problème le plus précocement possible pour offrir à ces patients un soutien adapté qui ne couvre pas uniquement la douleur calculée numériquement sur l'échelle, mais aussi toutes les autres
dimensions, tous les autres aspects.
Avec cette question, est-ce que ça peut avoir un impact effectivement psychique sur le patient? J'ai posé la question à Carlo Delinocci, psychiatre, chef de clinique au service de psychiatrie de liaison et d'antalgie du CHUV.
Toujours. Si j'ai mal, quelque part, ça va m'impacter, bien sûr, dans mon psychisme. Donc après, à quel niveau, à quelle gravité, ça c'est tout à fait variable. Pour les patients que je vois au centre d'antalgie, c'est clair que l'impact de la douleur dans la vie du sujet est tellement importante, presque, je dirais, de prendre la place de l'identité du sujet. D'une certaine manière, le sujet, il parle pas sa douleur, c'est le corps qui parle à travers ses symptômes, qui rend le sujet impuissant face à plusieurs tâches, vis-à-vis plusieurs... Voilà.
Ça peut mener carrément à la dépression?
Oui, c'est très connu, ça. C'est la comorbidité de l'aspect dépressif dans la douleur chronique, elle est très présente, donc ça peut amener à une dépression. Je ferai attention à une casualité, cause-effet dans cette situation. Est-ce que c'est la douleur qui provoque la dépression? Est-ce que c'est la dépression qui provoque la douleur? Moi, j'aurais tendance à sortir de cette logique dichotomique.
Mais est-ce que ça veut dire que vous, en tant que psychiatre, vous êtes capable de faire diminuer une douleur par une psychothérapie, par exemple?
Moi, je pense pas diminuer au sens quantitatif. Je pense diminuer au sens qualitatif du terme, c'est-à-dire pouvoir aider le sujet de sortir un peu de cet rapport avec la douleur qui prend une place énorme dans l'identité du sujet, de l'individu, et de pouvoir, au fond, l'aider à vivre mieux avec, des fois, on peut pas enlever ses douleurs, même du point de vue psychique. Deux fois, le patient ne peut pas renoncer à cette douleur.
Et comment on fait pour justement l'aider à vivre mieux avec la douleur? Quels conseils vous leur donnez?
Je pense que l'outil le plus fort dans cette situation, c'est la relation thérapeutique. Je pense que la première chose, c'est la chose la plus importante, c'est la qualité de la relation thérapeutique dans ce sens.
Donc la relation thérapeutique, c'est la relation avec le thérapeute?
Bien sûr, c'est ça. Et en même temps, une chose très importante, pouvoir reconnaître la douleur. Parce qu'au fond, dans la société moderne, une douleur qu'on ne voit pas, par exemple, un patient qui a une lombalgie chronique et on ne voit pas grand-chose dans une radiographie, on a tendance à dire, voilà, cette douleur n'existe pas. La première chose, je pense, chez un patient qui souffre, c'est de reconnaître sa souffrance. Donc de reconnaître la subjectivité de la souffrance. C'est ce qui est aussi, je dirais, une priorité autour de maladies psychiatriques aussi en général, pas simplement autour de la douleur. C'est une, je dirais, une clinique de la subjectivité.
Mais ça, aujourd'hui, les médecins le font beaucoup. On ne peut pas leur reprocher de négliger les douleurs, ou quand même?
Non, je dirais, les médecins le font beaucoup, font de leur mieux, font c'est ce qu'ils peuvent. Mais en même temps, c'est vrai aussi que ce sont des situations difficiles, extrêmement difficiles à traiter. Et des fois, aussi dans les patients qui ont des douleurs chroniques, on peut avoir des difficultés particulières dans la relation médicale, dans le sens où ce sont des patientes qui donnent extrêmement confiance dans une médecine qui peut tout résoudre. Et malheureusement, cette médecine ne peut pas tout résoudre. Et au fond, quand le médecin se sent impuissant face à cette situation, ça peut, d'une certaine manière, conditionner, si cette impuissance n'est pas acceptée par le médecin, la relation thérapeutique.
Carlo Dellinocci, psychiatre, chef de clinique au service de psychiatrie de liaison et d'ontalgie du CHUV.
CQFD sur la première.